Depuis plus de 40 ans, Aligre FM, votre radio culturelle, vous propose des programmes diversifiés, sans aucune interruption publicitaire. Parce que cette radio est la vôtre, vous pouvez nous aider. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur le site aligrefm.org. Découvrez nos podcasts et laissez-vous guider pour faire un don en cliquant sur le lien en bas de page.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Nous sommes sur Aligre FM 93.1. Dans la vie est un roman. Nous sommes mardi matin, il est 11h. Nous avons deux invités. Un invité qui va nous parler du deuxième volume des œuvres complètes de Robert Lebel qui viennent de paraître à l'Atelier Contemporain. Et une invitée qui a un sujet qui est kaléidoscopique, qui s'appelle Christine Sagnier, notre première invitée, et qui a publié l'autobiographie d'un mythe de Satan. Donc c'est l'autobiographie de Satan. Et pour commencer, je vous propose d'écouter un petit morceau de musique auquel j'ai pensé dans le bus en venant. Je me disais, quelle image j'ai de Satan? Et c'est une des images que j'ai de Satan.
Samuel! Samuel! Herbaï! Eins.
Donc c'était le Freischutz de Karl Maria von Weber, qui à l'époque est le beau-père de Wagner. Et on entend des petits bruits parasites, c'est le bruit du feu oui, qui est imité de façon un petit peu primaire. Je ne sais pas, il tape sur le micro. Mais donc voilà, vous avez écrit un livre sur... vous nous racontez, comment on peut dire, la vie historique de Satan.
Oui, bonjour d'abord.
Bonjour.
Effectivement, en fait, Donc, je ne suis pas une spécialiste et je me suis plongée dans une documentation gigantesque. Donc, j'ai fait mes choix et j'ai donc écrit, puisque ce livre appartient à une collection, une autobiographie de Satan. Donc, effectivement, l'idée était de voir la progression de l'image enfin, que l'on pouvait avoir du diable, de Satan, au fur et à mesure des siècles. Et c'était un très, très vaste sujet. Donc, j'ai orienté ça, effectivement, vers le côté, enfin, ma documentation plus historique, avec, effectivement, un Satan qui est kaléidoscopique, si l'on peut dire. Et chacun a son Satan, d'une certaine manière. Chacun a son diable. Et quand je demandais aux gens, qu'est-ce que voyez-vous, qu'est-ce que c'est pour vous le diable, c'est la plupart du temps, c'est soit un petit bonhomme rouge avec une queue, des cornes, voilà. Et c'était très intéressant pour moi de lire, alors du coup, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et j'avoue que mes heures de catéchisme étaient vraiment ensevelies depuis très, 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 très longtemps. Et j'ai découvert un nouveau Satan, d'une certaine manière, un nouveau aspect qui, pour moi, peut-être a été le fil conducteur après du roman. Dans le sens où, finalement, ce que l'on, peut-être on ne retient pas, on ne sait pas, c'est que dans les tout premiers textes, Satan, c'est le Satan, et c'est plutôt l'envoyé de Dieu sur terre, celui qui va observer les hommes, éventuellement les tenter, pour voir si ce sont de bons, s'ils sont fidèles à Dieu ou pas. Et ça me semblait vraiment intéressant, d'autant plus que ça peut aussi suivre enfin, le fil de l'histoire. On peut se demander s'il est tout au long de cette très longue histoire, donc, l'outil de Dieu, si ça perdure ou pas. Et ce premier Satan, donc, on le voit auprès de Job, entre autres, Job qui est un homme très protégé par Dieu, un homme riche, un homme qui connaît un peu tous les bonheurs de la terre, qui a des enfants, de très beaux enfants, une dizaine, qui a un cheptel considérable. Et Satan demande à Dieu, dit à Dieu, mais effectivement, Job vous aime puisque vous lui donnez tout ce qu'il souhaite. Il est ce Job-là, il baigne dans le bonheur. Et donc, Satan demande à Dieu l'autorisation de tenter Job, ce qu'il va faire. Voilà. Et en fait, à chaque fois, on voit que ce fameux Satan, il travaille main à main avec Dieu. Après, on le voit en une sorte de procureur qui est là entre un procureur très, très raide dans la justice, en train de présenter des faits et d'essayer peut-être d'établir la culpabilité des hommes. Et face à lui, Saint-Michel, Michel qui est, lui, le défenseur des hommes. Et petit à petit, ce Satan va se transformer. Et à partir de l'ère chrétienne, il deviendra vraiment Satan, le personnage plus démoniaque, en fait. Mais ce qui peut surprendre certains, peut-être, c'est que donc, ce Satan... la Genèse, le Satan ne commence, n'est pas le serpent au départ, le serpent de la Genèse. Il y a donc des textes qui précèdent, antérieurs, et ce Satan de la Genèse, ça appartient, si l'on peut dire, à une deuxième époque de la vie de Satan. Il s'introduit dans le serpent pour faire finalement, pour tenter l'homme, le faire donc. Croquer cette fameuse pomme et causer sa perte, mais finalement Satan cause sa propre perte. Et là, on arrive au fameux ange déchu, puisque Dieu va punir Satan. Et entre punition Et finalement, récompense, toute cette vie de Satan, et c'est une sorte de danse avec Dieu. Et mon Satan ne sait plus trop où il en est parfois, puisqu'il semblerait que Dieu, finalement, l'ait envoyé aussi sur Terre en tant qu'ange déchu, pour peut-être, pourquoi pas, faire vraiment apparaître le bien suscitant le mal un peu partout, finalement, par opposition, le bien surgit aussi. Et donc, ce Satan peut se poser la question de sa raison d'être. Voilà, mon Satan.
Et donc, je me suis posé la question de Satan. Donc, je voyais, j'ai pensé à Baudelaire et puis à des images un peu qui sont la fin du 19e siècle. Mais j'ai surtout pensé à William Blake qui est un Satan. Mais c'est difficile pour nous de nous replacer dans la force de transgression de la moindre ligne de William Blake dans son propre contexte historique. Et je peux vous lire deux, trois lignes. C'est vraiment, c'est très impressionnant. Par exemple, il y a une ligne seule déjà qui est tellement belle et où on comprend ce qu'était William Blake sans même parler de son travail. La route de l'excès mène au palais de la sagesse. Donc ça, c'est extraordinaire. Et on a, et comme le développement personnel, par exemple, est à la mode, on lit toujours avec les contextes. On a une impression en lisant, ça j'ai Le mariage du ciel et de l'enfer, on a l'impression d'une espèce d'attaque violente contre le développement personnel en même temps. Mais je vous lis deux, trois lignes. « Ceux qui répriment le désir sont ceux dont le désir est assez faible pour être réprimé. » Et ce qui réprime ou raison usurpe sa place et gouverne ce qui n'a pas de volonté. Et le désir réprimé par degrés devient passif, ce n'est plus que l'ombre du désir. Le récit de tout ceci est couché par écrit dans le paradis perdu et le gouverneur ou raison y est appelé Messie. Et l'archange originel ou dépositaire du commandement de l'armée céleste est appelé le diable ou Satan et ses enfants portent le nom de péché et de mort. Mais dans le livre de Job, le Messie de Milton est appelé Satan, car cette histoire, les deux parties l'ont adaptée. Il apparaît en effet à la raison que le désir avait été chassé, mais au dire du diable, c'est le Messie qui déchu y fit un ciel et de ce qu'il vola à l'abîme. On a la révélation dans l'Évangile où il prie le Père de dépêcher le Consolateur ou désir, pour que la raison ait des idées sur lesquelles bâtir le Jéhovah de la Bible, n'étant autre que celui qui fait du feu, ardant sa demeure. Sachez qu'après sa mort, le Christ devint Jéhovah. Mais chez Milton, le Père est le destin, le Fils un ratio des cinq sens et le Saint-Esprit le vide. Non. La raison. Pourquoi Milton écrivit-il dans les fers quand il écrivit des anges et de Dieu est libre, et quand il écrivit des démons, de l'enfer, c'est qu'il était un vrai poète, et sans le savoir, du parti du diable. Bon, c'est pas évident, mais on est habité, on a envie de danser le Dirk, on est à Sainte-Sophie, on a fumé quelque chose et on danse face à face.
Alors moi, j'ai essayé de ne pas fumer.
On cherche la cérémonie, on voudrait qu'il se passe quelque chose.
Mais effectivement, on peut toujours se poser, c'est vraiment la question du bien et du mal qui flirte en permanence. Enfin, Satan, c'est ça. Et ce que l'on voit aussi, enfin, cette perversité de l'homme, on la voit à travers les sorcières, le sabbat, et les persécutions où Satan finalement se dit presque dépassé par l'homme, puisque l'homme met un tel plaisir à persécuter en fait dans ces fameuses sorcières, ces femmes, puisque c'est quand même c'est l'objet, c'est le corps de la femme, et trouver la marque du diable. Et il y a effectivement beaucoup de vices en l'homme qui, selon Satan, le dépasse presque, en fait. Et quand arrive justement le 14e siècle, 15e, et que l'on a la guerre de 100 ans, les pestes, voilà, là, c'est Satan est là. définitivement. Et on a une iconographie qui est extrêmement violente et très intéressante. Et là, Satan semble dominer à ce moment-là. Alors qu'avant, il avait une figure... Bon, l'Église, effectivement, essayait de museler le peuple en secouant, en agitant la figure de Satan, du diable. Mais le peuple restait dans des croyances quand même très... un imaginaire un peu magique. Le monde était assez magique avec toutes ces sorcières, les âmes des morts, les petits démons. Et c'est à partir de cette période-là que ça devient très, enfin, un Satan très dur, très, très violent, un réel monstre, alors qu'il était souvent figuré de façon plus, plus proche de l'homme ou de l'animal. Mais là, c'est un monstre.
En même temps, si on prend par exemple l'hypothèse de Franger sur Bosch, comme quoi qu'il appartenait à une secte du libre-esprit et qu'il faisait la messe tout nu et qu'il se livrait à des rites bachiques, on a aussi un Satan qui est plein de désirs. Mais dans votre livre, vous énumérez juste les noms qu'on lui donne, Satan, Lucifer, Bélial, Belzébuth, Diable... Et déjà là, on a un côté borghésien, comme ça, d'une espèce de bibliothèque infinie.
Oui.
On aime cette perspective et quand même, vous étiez face à un exercice difficile parce que c'est plus intéressant de ne pas le comprendre que de le comprendre. Quoi. C'est le...
Mais arrêtons
c'est
à le
profondeur du péché.
Mais l'idée, c'est est-ce qu'il se comprend lui-même? Il ne sait pas qui il est, c'est ça son problème.
C'est très fort,
on finit là-dessus.
Très fort,
qui est-il? Il ne sait pas. Et... Non, c'était en fait gigantesque. Et c'est vrai qu'au début, je me suis vraiment posé la question comment, par quel bout, je vais prendre Satan. Et si l'on peut dire.
Et donc, vous proposez de le psychanalyser.
Oui, tout à fait.
Si on parle de Lacan, après, on peut imaginer Satan reçu par Lacan. Je pense que ça fonctionnerait assez bien.
Oui, peut-être que Lacan, au bout d'un quart d'heure, Lacan...
Eh bien, il lui dit, c'est temps. Au bout d'un quart d'heure, il dit, c'est temps.
Mais...
À la page 93 de votre livre, vous dites, « J'ai dû adopter l'enveloppe corporelle d'un homme ou celle d'un animal, bouc, chat, chien, loup, mouche. J'avais pu adopter n'importe quel attribut, corne, queue, sabot, peau verte, rouge, noir, mais j'avais conservé, de cela j'en suis sûr, un visage humain encore un temps. J'étais, je le rappelle, de ces créatures que Dieu avait engendrées. Votre Seigneur n'avait pas pu concevoir un monstre. Seuls les hommes en sont capables. »
Oui, effectivement. Mais c'est la période correspond à sa descente aux enfers. Là, il devient le roi des enfers. Et c'est vrai que du coup, l'iconographie est absolument monstrueuse. Et comment passe-t-il de ces différentes étapes, en fait. Et c'est au fur et à mesure que l'Église prend du pouvoir, que la royauté prend du pouvoir, Satan, lui aussi, prend du pouvoir et devient... de plus en plus horrifique, si l'on peut dire, au niveau de l'illustration. Oui.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Il y a quelque chose qui m'apparaît maintenant, c'est aussi... vous tutoyez Dieu, en fait, pratiquement. C'est tout à fait paradoxal, mais en travaillant sur Satan, comme c'est son autre... Dieu devient un être familier, justement, comme
oui,
dans une...
familier et inquiétant. Si l'on suit le raisonnement de Satan, qui est l'outil de Dieu, Dieu devient vraiment très inquiétant. Et Jésus aussi, d'ailleurs, qui sème la zizanie sur terre, du point de vue de Satan, et qui va faire en sorte de diviser les hommes. Alors que c'était le rôle de Satan auparavant. Et d'ailleurs, Dieu avait... le rôle de Jésus-Christ était déjà convenu. Il allait finir sur la croix. Donc, ce n'est pas Satan qui a fait en sorte de placer le Christ sur la croix. C'était déjà son destin. Donc, c'est pour ça que Satan remet en question beaucoup de choses. Et surtout, il remet en question... son rôle donc par rapport à Dieu, ce Dieu qu'il, qu'il voudrait égaler, voire dépasser, ce qui vaut sa chute sur Terre, la première. Et ce Dieu aussi qui semble, oui, tenir toutes les ficelles. Et pas que les. Je veux dire, ce n'est pas un Dieu toujours bon, loin de là. Il est le Fils de Dieu, d'une certaine manière.
Bon, je ne sais pas si ça doit exister, en fait. Il y a, par exemple, une conférence d'un des historiens des annales sur la notion purgatoire. Je suis assez court, comment il s'appelle, bon, bref. Et donc, il existe peut-être une histoire de ces choses, mais là, je pensais à Spinoza, c'est à cause de Blake, et le passage au XVIIe siècle, enfin, d'une façon très weberienne, l'arrivée du protestantisme et tout ça, et donc la fin d'une imagerie, le développement du capitalisme, qui paradoxalement laisse aussi l'image se développer parce qu'elle n'a plus d'importance, en fait. Donc, c'est Guignol qui arrive, hein, c'est le. Au Moyen-Âge, ils peuvent pas le représenter parce qu'il est impensable et parce qu'il garde un pouvoir immense. Et c'est quand il n'est plus, quand on n'y croit plus, qu'on peut vraiment le représenter. C'est tout à fait paradoxal, mais sinon, il est foudroyant, il fait peur.
Oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Mais après, les choses se transforment aussi dans le sens où qui est Satan, où est Satan? Dans le cœur de l'homme, en fait, c'est ça. Donc, il prend la figure de l'homme et il devient là encore plus dangereux, puisque un monstre, voilà, et on reconnaît le monstre et à travers l'homme, on ne connaît pas le cœur de l'homme.
Mais c'est pour ça que je parlais de Spinoza. On va laisser tomber le côté figuratif, le côté image, et on va parler des passions, bonnes, mauvaises, etc. Donc, on va rentrer dans l'univers, justement, de description, comme on décrit les plantes, comme on décrit les éléments, comme on décrit tout. Il y a une espèce de rationalisme qui va s'emparer de tout. Et on va démonétiser ces images fortes. Hein. Et ça va permettre de faire beaucoup d'images, puisque le côté sacré est démystifié, donc il n'y a plus que les images, quoi.
Mais ce qui est intéressant par rapport à ce que vous dites, c'est aussi Satan finalement a grandi. Enfin, c'est. Oups, je joue avec mon micro. Satan, avec l'imprimerie, en fait, il a tout d'un coup élargi son audience. On a pu le reproduire un peu partout. Et donc, le peuple sait aussi comment familiariser avec Satan. Et c'est vrai qu'après, par exemple, au XIXe siècle, Satan, lui, devient presque un objet intéressant, un dandy. On peut en rire, il est beau. L'inverse de ce qu'il était auparavant, effectivement.
Ouais, on a et puis on a Saint-Michel là qui terrasse le on a encore toute cette imagerie, on a des, enfin, c'est un sujet vraiment riche et intéressant,
très très vaste,
très vaste, voilà. Et...
mais j'ai préféré l'aborder avec une sorte de cynisme, d'humour, pour trouver une voie, parce que c'était quand même assez troublant, cette avalanche de documentation.
Et à un moment, vous pensez même à une espèce de vision universelle, en fait. Vous dépassez la religion chrétienne pour parler de Satan en général dans d'autres sociétés.
Satan est partout. Le retrouve partout. C'est l'image du mal. Les hommes recherchent à comprendre le mal.
On voit des images de démons tibétains qui nous rappellent évidemment Satan.
Il est partout. Il est partout. Et oui, Satan, c'est le mal. Et les hommes ont toujours cherché à comprendre pourquoi ce mal. Oui, d'où venait-il?
Et là aussi,
d'où vient-il?
On a un historien d'art qui a travaillé sur l'arrivée des images asiatiques. Donc Marco Polo, c'est 1258, hein, des choses comme ça. Donc, et on les retrouve chez Jérôme Bosch, par exemple. Il y a des motifs dont on peut faire la démonstration à l'identique. Ouais. Le petit personnage qui n'a pas de corps, par exemple, qui a des bottes et puis qui est penché en avant, On a ce motif dans au Tibet. Vraiment le même, représentation. Ouais.
Mais justement, ces grandes expéditions ont un peu aussi justifié... Enfin, on a justifié ces grandes expéditions par le fait de convertir les hommes, puisque les infidèles étaient du côté de Satan. Donc, il fallait, donc ça justifiait, en fait, tout ce qui se passait dans les pays découverts.
Bon, mais le temps passe très vite. On a parlé du livre de Christine Sagnier, « Moi, Satan, autobiographie d'un mythe », paru aux ateliers Henri Dougier. Je vous mettrai toutes les références sur le podcast. Nous sommes sur Aligre FM 93.1 dans la vie est un roman. Je remercie Baos Askandak qui est de l'autre côté de la vitre et Sébastien François. Et nous allons écouter un petit morceau de musique. Thank you.
And I still wonder to say that's all right. But I still wonder. I'm sorry to say you're not so great. I'm sorry to say you're not so great.
Ben, c'était donc Marcel Duchamp, Orchestre tout puissant, c'est pas mal du tout. Et nous allons parler maintenant d'un livre qui vient de sortir, qui est assez gros, qui représente le deuxième tome des œuvres complètes de Robert Lebel, La Troisième Horloge, Poésie et Récits, 1943-1986. Et l'édition a été établie et présentée par Jérôme Duhas, qui est avec nous et qui va nous en parler. À vous.
Bonjour. Oui, en effet, donc, il s'agit du deuxième volume donc, des œuvres complètes prévues donc, de Robert Lebel. Le premier est paru il y a déjà 7 ans, finalement, aux éditions du MAMCO de Genève, et s'appelait le... Enfin, c'est moi qui donné ce titre, puisqu'il n'y avait pas de titre d'ensemble, le surréalisme comme essuie-glace. Il y avait déjà un petit clin d'œil vers Marcel Duchamp, qui est l'auteur d'une œuvre fameuse qui est la grande, enfin, disons, le grand verre, donc l'essuie-glace allait de ce côté-là aussi. Et puis c'était un terme, l'essuie-glace, qu'a utilisé au moins 2 fois Marcel Duchamp, je fais déjà l'erreur, Robert Lebel, pour parler d'une artiste qui a beaucoup compté pour lui, qui est Isabelle Wahlberg.
Il faut peut-être que vous disiez le rapport entre Lebel et Duchamp, peut-être que tout le monde ne sait pas
alors,
de quoi il s'agit.
Effectivement, c'est une relation qui est très profonde et ancienne entre Robert Lebel et Marcel Duchamp, puisqu'ils font connaissance en 1936 à New York, alors que Marcel Duchamp est là pour réparer justement son grand verre. Et finalement, ensuite, ils vont rester en contact tout au long de leur existence. Et Robert Lebel, qui va être toujours dans une forme de proximité avec le groupe surréaliste, va aussi constamment entretenir cette relation privilégiée avec Marcel Duchamp. Alors, c'est pas une relation d'intimité au sens strict du terme, mais disons, c'est quelqu'un qu'il va suivre évidemment tout au long de sa carrière. Et puis Robert Lebel, comme Marcel Duchamp, va faire aussi des allers-retours entre Paris et New York. Donc ils vont avoir à plusieurs reprises des occasions de se rencontrer. Et surtout, Robert Lebel va être le premier à consacrer un ouvrage complet à Marcel Duchamp, qui va paraître simultanément en 1959 en français et en anglais, et qui va s'appeler donc Sur Marcel Duchamp. Alors pour présenter peut-être un peu, pour commencer, Robert Lebel, pour essayer de répondre à cette question « Qui est Robert Lebel ?», qui est une question à la fois simple et compliquée finalement, on peut d'abord dire une première chose, c'est que donc Robert Lebel, c'est d'abord quelqu'un qui, dans la vie quotidienne, va être un expert en peinture. Expert en peinture ancienne. D'abord, il va faire l'école du Louvre, après un certain nombre de péripéties, et donc il va expertiser des peintures à l'hôtel de Drouot. Avant, c'était au palais Galliera, l'actuel musée de la mode. C'est là que se déroulaient de grandes ventes. Donc il va avoir une véritable carrière en tant qu'expert auprès des tribunaux, etc. Et puis donc c'est quelqu'un qui de manière beaucoup plus secrète donc va avoir une activité littéraire pour le dire ainsi. Et c'est ce dont rend compte finalement ce volume, c'est-à-dire il va écrire donc assez tardivement, puisque son premier ouvrage donc de nature poétique, il le fait paraître à plus de 40 ans, 42 ans si ma mémoire est bonne, donc à New York en 1943, et ça s'appelle Masque à l'âme. Et puis donc tout au long de sa vie, il va publier donc des récits, des essais sur l'art, et souvent ce sera diffusé de manière très confidentielle, volontairement je dirais. C'est quelqu'un qui va tout faire ou presque pour que finalement sa vie littéraire demeure en quelque sorte comme ça dissimulée au plus grand nombre. Il ne va pas forcément choisir un éditeur qui va défendre énormément son travail, même si c'est un éditeur avec le recul qui a eu un catalogue tout à fait prestigieux. C'est-à-dire le plus fréquemment, il va publier ses livres donc au Soleil Noir chez Didio, mais dont on sait que, en tant que, en tout cas, diffuseur de livres, il ne faisait pas un travail forcément extrêmement efficace. Donc, c'est quelqu'un qui a cette, je vais utiliser le terme, cette double vie, finalement, en tant qu'expert en peinture, et par ailleurs, donc, de poète, d'homme de lettres. Alors, et si on reprend la même question, qui est Robert Lebel, d'une manière un peu plus approfondie, on se rend compte que pour y répondre, c'est assez difficile. Ça, elle devient beaucoup plus retorse, parce que cette question « qui suis-je ?», finalement, c'est celle aussi qui ouvre Nadja. C'est ceux qui ont souvenir de ce livre fameux d'André Breton. « Qui suis-je ?» qui glisse très vite vers la question « qui je hante ?». Et là, on arrive à beaucoup plus de difficultés si on adresse cette question à Robert Lebel. D'autant plus quand on consulte ce volume donc, qui vient de paraître à l'Atelier Contemporain, donc les éditions animées par François-Marie Desrolles, que je salue au passage, on se rend compte que déjà il y a un certain nombre de titres d'ouvrages qui sèment un peu le doute sur la personnalité de Robert Lebel. Je signalais ce premier titre, Masque à l'âme, qui est donc un ouvrage poétique, hein, qui s'identifie comme tel, qu'il produit donc à New York, qu'il fait lire à Breton et qui lui vient dans une relation de grande affinité qui va prendre la forme aussi d'une relation amoureuse au très long cours tout au long de sa vie avec Isabelle Wahlberg, donc la sculpteure qu'on a un peu malheureusement oublié, et qui réalisait à ce moment-là des sculptures très, très délicates en bois de hêtre courbé, qui étaient inspirées aussi par les cartes de navigation esquimaux. Et c'est finalement, lorsque Robert Lebel voit ces sculptures à New York, ils sont tous les deux dans une situation d'exil, hein, Isabelle Wahlberg comme lui, comme Breton, comme Duchamp, comme un certain nombre de surréalistes, Max Ernst, etc.
Tout le monde. Lévi-Strauss.
Lévi-Strauss, hein, évidemment, Breton, on le sait, s'est embarqué sur le bateau, le capitaine Paul Lemerle, en compagnie de Lévi-Strauss, du jeune Lévi-Strauss. Il y a des échanges, etc. Donc, ça se passe dans cette situation d'exil. Et à ce moment-là, Robert Lebel donc, décide finalement de donner une expression poétique à l'enthousiasme qui est le sien lorsqu'il voit justement pour la première fois ces sculptures très, très, très originales d'Isabelle Wahlberg. Le livre connaît un certain succès. Il est publié par Yvan Goll, qui est aussi en exil aux États-Unis, qui publie dans cette situation de l'exil, une revue qui s'appelle Hémisphère, qui développe aussi une petite collection donc d'ouvrages. Donc ça, c'est sa première, donc je disais, Masque à l'âme, qui nous donne Masque à l'âme. Ça s'écrit L-A-M-E, parce que ça renvoie au masque, disons, à la tradition des masques, mais aussi à l'âme, L-apostrophe, naturellement. Hein, donc, le jeu de mots, on parlait de Lacan précédemment, bon, là, ça fonctionne très bien. Parenthèse, d'ailleurs, Robert Lebel va suivre une longue, analyse auprès de Lacan bien plus tard. Deuxième titre qui donne, qui nous laisse penser que cette personne plutôt de Robert Lebel n'est pas si simple à appréhender. Un de ses ouvrages, important qu'il va publier, qu'on retrouve dans le volume, donc chez François Didio, s'appelle La double vue. La double vue qui raconte l'histoire d'un peintre qui décide de se retirer de la scène du marché de l'art et de vivre la nuit et qui à cette occasion découvre aussi dans un quartier parisien qu'il y a une fabrique de pianos abandonnée avec une activité assez louche comme ça, des personnages dont une gardienne qui ressemble par certains traits, c'est l'hypothèse que je fais aussi aux mœurs et du groupe surréaliste que Robert Lebel a bien connu. Et donc, double vue aussi, c'est quelque chose qui peut nous laisser entendre qu'avec Robert Lebel, on n'a pas affaire à une personnalité tout à fait simple. Et alors, l'un des inédits et je crois majeurs de ce volume, donc, s'appelle, c'est un long inédit, s'appelle « Journal d'une démystification ». Et donc là, démystifier, c'est bien lever aussi un certain nombre de mystères. Il l'écrit assez tardivement, hein, puisqu'il commence ce journal dans les années 70. Il va l'abandonner, puis le reprendre jusqu'à sa mort, hein, qui intervient donc en 1986. Et dans ce journal d'une démystification, il raconte un certain nombre, toute son existence, depuis celle qui était la sienne, il a travaillé dans une banque, il a été chansonnier, il a eu une activité, il a vu beaucoup de spectacles, il y a eu d'expositions qui sont restées dans les mémoires, comme celle qui a été consacrée à Georges de la Tour, quand on a découvert ces peintres du XVIIe siècle qui abordaient la réalité sous un autre jour. Bon, bref, il raconte un certain nombre d'anecdotes qui sont, je crois, qui donnent une véritable teneur à son existence, ses relations aussi avec le duc de Trévise, qui était un grand collectionneur d'art de la période de Géricault, etc., de Napoléon, et qui a été une cause majeure de son exil aux États-Unis, puisque c'est au moment où finalement Robert Lebel est en charge d'une exposition qui devait se tenir à Ottawa et qui devait avoir pour centre justement la collection de ce fameux duc de Trévise. Il embarque avec sa femme et enfant sur un paquebot pour Ottawa, et en plein milieu du voyage, la guerre est déclarée, en sorte que finalement ils sont condamnés. Ils sont du coup rester sur ces terres du Nouveau Monde, et il va regagner New York un peu plus tard. Donc toutes ces pièces, dans ce dossier, ce volume qui réunit les œuvres littéraires de Robert Lebel, nous permettent de tenter de reconstituer un portrait beaucoup plus complexe de ce personnage, dont Marcel Duchamp lui-même, qui l'a connu pendant très longtemps, il s'interrogeait aussi sur sa véritable personnalité. Une anecdote est rapportée, c'est dans un entretien qui avait été donné, que Robert Lebel a donné au Monde assez tardivement, où il rapporte cette anecdote, qu'on ne peut pas vérifier, mais où Duchamp se serait interrogé et aurait interrogé Lacan en demandant: mais qui est vraiment ce Robert Lebel? Je ne suis pas tout à fait sûr de saisir ce personnage. Donc effectivement, on a affaire à une personnalité complexe, à un sujet, je dirais, assez égarant, à travers, je crois, l'ensemble de ces récits, à la fois, évidemment, on peut être lancé sur un certain nombre de pistes, et en même temps, et je crois que c'est l'intérêt, on se perd aussi, et on est dans cette, incertitude que, je crois, la couverture de l'ouvrage restitue en partie. C'est une photographie qui, comme l'ensemble des documents qu'on retrouve dans ce livre, qui font partie des collections de son fils, Jean-Jacques Lebel. Et sur la couverture du livre, on voit en pleine page Robert Lebel photographié derrière une cage d'oiseaux. Un de ses récits s'appelle L'oiseau caramel, d'ailleurs. C'est une référence à l'autre personnalité majeure de ces avant-gardes que Robert Lebel a beaucoup fréquenté, qui est Max Ernst. Et donc derrière cette cage d'oiseau, on reconnaît le visage de Robert Lebel, déjà relativement âgé, dans la cage, derrière la cage, pris dans la cage. Effectivement, c'est cette personnalité complexe que ce volume, je crois, nous permet d'appréhender.
On est au Faubourg Saint-Antoine, on est entre Nation et Bastille, et donc il écrit le Saint-Charlemagne, là. Et c'est absolument passionnant, et il raconte, il démarre d'une fabrique du meuble. Balzac décrit déjà ce quartier, on est chez les fabricants de meubles, et lui-même vient de cet univers, et il va finir au lycée Charlemagne. Et il décrit d'une façon extrêmement torturée, vraiment, et très très tenue, très très bien tenue, son enfance. Et on a l'impression d'une espèce de souffrance comme ça, d'auto-analyse extrêmement violente. Et on comprend bien pourquoi il se fait psychanalyser. Et il écrit avec beaucoup de rigueur dans l'auto-démontage qu'il fait de lui-même. Là.
Absolument. Absolument. Si je peux me permettre d'exprimer une préférence, c'est vrai que c'est parmi les livres, les récits ou le recueil de nouvelles que comporte ce volume. La Saint-Charlemagne est à mes yeux, mais pas seulement à mes yeux, aux yeux de Klossowski par exemple aussi, un livre majeur sur l'enfance. Si je peux me permettre juste une petite citation, ça commence ainsi. « Mes yeux bleus m'ont beaucoup servi, j'ai appris très tôt à en user de manière à désarmer les suspicions naissantes. » Et un peu plus loin, il dit ses yeux qu'il a ouverts, et je le cite à nouveau, « Mes yeux cependant s'ouvraient sur un monde qui ne me plaisait pas. » Donc c'est vraiment l'enfance révoltée, l'enfance qui... se déroule dans un cadre qui est celui d'une petite bourgeoisie qui connaît un certain nombre de difficultés financières du reste et qui est confrontée à des rivalités qui sont des rivalités de classe, hein, des rivalités aussi familiales, hein, avec sa grand-mère qui voulait prendre l'ascendant, etc. Et puis donc la rencontre, et là c'est tout à fait prodigieux, dans cette rue Charlemagne, hein, qu'on trouve donc dans ce quartier qui est celui de la place des Vosges, du boulevard Saint-Antoine, dans cette rue Charlemagne qui n'a rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui et qui était partagée entre une partie, disons, fréquentable et une autre pas du tout fréquentable. Et la description de cette rue et des milieux populaires dans ce livre, donc de nature autobiographique, est, je crois, effectivement tout à fait exceptionnelle. Lorsque Pierre Klossowski, à l'occasion d'une première réédition de cette Saint-Charlemagne, à l'époque c'était aux éditions François-Marie Desrolles, donc le même éditeur qui a changé de nom aujourd'hui, eh bien lorsque Pierre Klossowski produit une préface pour ce livre, il rappelle déjà tout ce qu'il doit à Robert Lebel en tant que peintre, hein, parce que c'est Robert Lebel qui l'a beaucoup incité finalement à prendre autant de temps, de consacrer autant de temps à sa peinture qu'à sa littérature. Et Pierre Klossowski dit à quel point ce livre est comparable à la fois à ce que on pouvait lire par exemple dans la chambre des enfants, hein, le nom de l'auteur m'échappe, je l'ai noté, je vais le retrouver, la chambre des enfants de lui, René Desforêts, bien sûr. Et puis aussi il pense à la pièce de Vitrac, Victor ou les enfants au pouvoir. Il inscrit véritablement la Saint-Charlemagne dans ce cadre-là, donc avec des œuvres quand même qui ont vraiment compté. Et il dit que finalement cette Saint-Charlemagne, elle parvient véritablement avec un regard qui est fait à la fois d'humour et de cruauté à restituer ce que c'est qu'une enfance en révolte véritablement par rapport à un milieu, par rapport à un cadre, à un contexte historique.
Nous sommes sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman. Et nous parlons de Robert Lebel, dont on découvre des faces cachées. Donc on le connaissait surtout pour le livre qu'il a fait sur Duchamp. Et là, on a un superbe ouvrage qui nous permet de découvrir Robert Lebel. Et donc le dernier volume dans l'œuvre, il raconte sa vie, en fait.
Dans ce journal d'une démystification.
Là, il nous intéresse parce qu'il nous parle de son rapport à Breton, il nous parle de son
Desnos
rapport
aussi.
À Desnos, beaucoup. Oui, il était très ami avec Desnos. Enfin, voilà.
Oui. Tout à fait. Donc, effectivement, l'un des intérêts de ce volume, c'est de produire donc cet inédit qui est donc plus d'une centaine de pages consacré, donc qui s'appelle Journal d'une démystification, où il revient sur son existence d'une manière assez directe finalement, et donc il raconte effectivement, et c'est, je crois que ça intéressera tous ceux qui, ils sont nombreux, je crois, qui font des recherches autour de Desnos ou s'intéressent à la figure de Desnos, puisque Robert Lebel va fréquenter Desnos lorsque le poète sera en rupture avec le groupe surréaliste. Il a toujours aimé, comme ça, je crois, avec un côté un peu malicieux, hein. Il est pas satanique, mais bon, il y a quelque chose, pour revenir à la précédente intervention. Donc, il y a quelque chose d'assez malicieux chez lui qui le conduisait à chercher comme ça des amitiés qui étaient à la limite de l'antagonisme. Donc, il va fréquenter longtemps Robert Desnos et il raconte raconte son existence compliquée avec Yuki, etc. Parce qu'ils se retrouvaient tous dans une petite ville qui s'appelait Marnay, et où Robert Lebel avait une maison, et il rencontrait là une société assez animée avec des personnages qui sont resté assez obscur, qui s'appelait les frères Domecq, mais qui avait une sorte d'humour comme ça, superlatif, et qui a un rapport à l'existence qui était particulièrement, original. Et puis, donc, le couple d'Esnos Yuki se retrouvait là aussi, avec les frasques qui étaient celles de la vie, sexuelle de Yuki, qui était assez complexe, disons, pour le dire ainsi.
Et celle de Robert Lebel aussi était assez complexe.
Assez complexe, effectivement, puisque, bon, je l'ai dit, double vie veut dire aussi double vue veut dire double vie. Voilà, je commets le lapsus. Et je le disais, effectivement, ça, il menait une existence assez bourgeoise, évidemment. Mais en même temps, il a cultivé des amitiés et des amours, notamment avec donc la sculpteur Isabelle Wahlberg, qui est restée une figure phare dans son existence.
Et est-ce que vous voulez parler de cet écrivain que j'ai découvert dans le volume, qu'on ne connaît pas du tout, et qui était très apprécié par Bataille, Blanchot, oui, et des gens comme ça?
Alors Fardoulis Lagrange, effectivement, donc, a été une amitié importante aussi pour Robert Lebel. Donc, dans le volume, donc, il y a des textes de fiction, et puis un certain nombre de textes théoriques consacrés à la poésie et à la littérature. Et celui auquel il a consacré le plus d'essais critiques, c'est Fardoulis Lagrange. Un auteur oublié, quoique beaucoup apprécié par Blanchot, Léris, des figures majeures quand même de la littérature, disons, du XXe siècle, du second XXe siècle, et qui est, bon, d'une lecture assez difficile, hein, pour ce qui est de Fardoulis, qui a écrit, qui était un proche de Georges Bataille. Donc cette figure en pleine obscurité, je pourrais dire, eh bien, Robert Lebel n'a pas cessé finalement de la défendre. Parce que je pense qu'il y avait une même attraction pour l'ombre, et puis une forme de secret, une littérature secrète, et je pense qu'il appréciait particulièrement Fardoulis, qui était aussi un ami d'Isabelle Wahlberg.
Vous venez de me donner une idée sur le premier sujet, faire un livre sur Satan en pleine obscurité. Voilà. Le mettre en pleine obscurité, c'était aussi une très très bonne idée. Oui, donc cet ouvrage est très riche et nous fait découvrir tout à fait Lebel, qu'on ne connaissait pas, enfin, pas la plupart d'entre nous le connaissent pour... Il arrive à réaliser un portrait de Duchamp, avec l'aide de Duchamp, un ouvrage qui pose la franchise Duchamp, la marque Duchamp, et qui va pas très vite en plus, hein. Donc il y a la description, il y a Hamilton qui va faire du vivant de Duchamp une grosse exposition, George Hamilton, il s'appelle Richard Hamilton. Mais quand Duchamp meurt, l'article nécrologique dans le Monde que vous citez est totalement insignifiant, enfin c'est quelqu'un qui n'existe pas.
Non, c'est vraiment le... avec son livre sur Marcel Duchamp, donc, et tout ce qu'il a, enfin, toutes les études qu'il a consacrées à Marcel Duchamp qui seront réunies dans un prochain volume, eh bien, effectivement, Robert Lebel s'affirme comme un des meilleurs connaisseurs de cette œuvre. Alors, c'est ce qui est un peu...
De l'homme, en fait, plutôt que de l'œuvre.
Et alors, en revanche, c'est peut-être là-dessus que j'aimerais dire un mot encore, c'est que dans ce volume-là, donc dans la troisième horloge, et ce sera l'occasion d'en éclairer le titre, eh bien, ce volume contient un récit relativement bref qui s'appelle « L'inventeur du temps gratuit ». Et il est précédé, d'ailleurs, quand vous ouvrez l'ouvrage à la page de ce récit, il est précédé par une photo de Robert Lebel et de Marcel Duchamp, parce qu'il ne s'agit pas d'autre chose que d'un portrait imaginaire de Marcel Duchamp en inventeur du temps gratuit. Qu'est-ce que c'est qu'inventer le temps gratuit? C'est étrange, hein. Et justement, dans ce récit, sans en déflorer tout l'intérêt, on voit un personnage qui se promène à New York, justement, puisqu'il écrit écrit ce texte autour lorsqu'il est en exil, Robert Lebel, donc dans les années 42-44. Il est publié bien plus tard, en 1957, d'abord dans une revue surréaliste, Le Surréalisme Même. Et donc dans ce récit, on découvre un personnage dans une sorte d'usine désaffectée qui apparaît au lecteur d'abord tout nu en train de faire des exercices. Et ce personnage, il lui explique une étrange théorie justement sur le temps gratuit. Sa raison d'être, sa raison sociale, c'est d'être l'inventeur du temps gratuit. Et dans cette usine désaffectée, on s'attarde sur trois horloges justement, donc qui sont dans un état de fonctionnement différent. Et la troisième horloge qui donne le titre au volume, c'est une horloge qui justement nous ouvre à une temporalité différente. Dans les récits de Robert Lebel, comme dans ses essais, la question de la temporalité, d'une temporalité qui soit en rupture avec le temps du quotidien, justement ce temps qui affole le jeune Robert Lebel dans la Saint-Charlemagne, et ce temps d'un monde qu'il n'aime pas, eh bien c'est tout à fait fondamental. Donc cette troisième horloge, avec François-Marie Desrolles, ça nous a semblé le meilleur titre pour qualifier ce volume, donc, qui se veut en rupture avec une certaine temporalité du quotidien.
Vous pensez qu'il sortira quand, le troisième volume ?
Il faut que j'y travaille, hein. J'ai encore beaucoup de travail, mais bon, je pense j'espère que dans un avenir relativement proche de 1 ou 2 ans, ça devrait voir le jour.
Ce serait bien, oui, ce serait une très bonne idée. Bon, nous étions sur Allegre FM 93.1 dans La vie est un roman et nous allons passer l'antenne à Cause Commune. Merci à tout le monde, merci les techniciens et à la semaine prochaine.
Écoutez Allegre FM 93.1.